Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Ce jour, nous parlerons de miracles. Cela pour vous encourager, bien-aimés, vous qui êtes accablés par la souffrance, vous qui êtes désespérés comme face à un mur. Vous avez, comme on dit, tout essayé. Mais avez-vous pensé à vous tourner vers Dieu? L'Écriture nous affirme ceci. Je lis Jacques chapitre 1er verset 17. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Je lis aussi Hébreux chapitre 13 verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Avec l'Évangile, nous affirmons ceci. Le temps des miracles n'est pas passé. Nous en sommes témoins. Le Seigneur a agi dans notre vie et autour de nous, merveilleusement, avec la même puissance que celle relatée dans les Écritures. Bien-aimés, il s'est déjà trouvé sur votre chemin des soi-disant experts qui vous ont dit « Attention, le diable aussi fait des miracles ». Cette parole vous a-t-elle apporté un secours, une espérance? Actuellement, la monnaie que nous utilisons est l'euro. La gamme des billets en euros comprend 7 valeurs. 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euros. Aucun faux monnayeur ne produira de coupure de 300 euros. La fausse monnaie ne peut exister parce que la vraie est là. L'Écriture, telle une lampe à nos pieds, nous permet facilement d'y voir clair quant à la puissance qui est à l'origine du miracle. Nous n'avons rien à craindre. Au contraire, Jésus a dit, Matthieu chapitre 7, verset 11, « Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Il est écrit, « Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. » Jésus l'a dénoncé comme étant celui qui, tel le voleur, vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Pour sa part, Jésus précise « Je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Et l'apôtre Pierre en rend témoignage dans la maison de Corneille, officier dans la troupe romaine dite « cohorte italienne ». Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Oui, Dieu fait des miracles, aujourd'hui comme hier, et il agit bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. À un père désespéré qui a interpellé Jésus en ces termes, « Maître, je t'ai amené mon fils, car il est tourmenté par un esprit mauvais qui l'empêche de parler. » Mais aie pitié de nous et viens à notre secours, si tu peux. » Jésus a répliqué, « Si tu peux, dis-tu, mais tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, aide-moi car j'ai de la peine à croire. » Bien-aimé, n'est-ce pas souvent aussi notre cas? Nous croyons, mais nous avons de la difficulté à croire quand la réponse espérée dépasse notre entendement. Dieu ne fait jamais la sieste, pas plus qu'il ne prend des vacances. Ce qui parfois freine sa puissance, c'est notre incrédulité. L'Évangile nous rapporte que dans la ville où Jésus a grandi, Nazareth, il n'a pu faire aucun miracle, si ce n'est qu'il a posé ses mains sur quelques malades et les a guéris. Et Jésus s'est étonné de leur manque de foi. Sa puissance est sans limite. Il intervient soit surnaturellement, soit providentiellement. toujours d'une manière qui nous émerveille. Quand le Seigneur intervient surnaturellement, cela veut dire qu'il modifie les lois naturelles qu'il a établies en qualité de créateur. Aux noces qui ont eu lieu à Cana en Galilée, l'eau changée en vin est un miracle. C'est surnaturel. Nombreux sont les témoignages attestés par les Écritures concernant les actions surnaturelles de Dieu. On ne peut les citer tous, mais en lisant les Écritures, ce que, bien aimé, je recommande fortement, notre foi est enrichie, encouragée et poussée à oser faire appel au Seigneur. Oui, cela nous incite à prier, à lui demander d'intervenir dans notre vie. Dans le deuxième livre des Rois au chapitre 4, nous lisons ceci. Un jour, une femme, dont le mari avait été membre d'un groupe de prophètes, vint trouver Élisée, le supplia de l'aider. Élisée, lui dit-elle, tu sais que mon mari était un fidèle adorateur du Seigneur. Maintenant, il est mort. Et l'homme à qui nous avions emprunté de l'argent va venir chercher mes deux enfants pour en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que pourrais-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu possèdes chez toi. Je ne possède rien du tout, répondit-elle. Il ne me reste qu'un peu d'huile, juste de quoi me parfumer. Eh bien, reprit Élisée, va chez tes voisins et emprunte-leur des récipients vides. Surtout, emprunte-en assez. Puis rentre chez toi avec tes enfants et ferme bien la porte. Alors tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté au fur et à mesure qu'ils seront pleins. » La femme s'en alla donc. Quand elle fut chez elle avec ses enfants, elle ferma la porte. Les enfants se mirent à lui passer les récipients, et elle les remplissait. À un certain moment, elle dit à l'un de ses enfants, « Passe-moi encore un récipient vide. » Mais ils étaient tous pleins, et l'enfant lui dit qu'il n'y en avait plus. Alors l'huile s'arrêta de couler. La femme alla raconter au prophète ce qui venait d'arriver. Celui-ci lui dit, « Va vendre cette huile et rembourse ta dette. Ce qui te restera d'argent vous permettra ensuite de vivre, toi et tes enfants. » Dans cette situation, Dieu a pourvu, surnaturellement. Dans l'exemple qui suit, Dieu va pourvoir providentiellement. C'est-à-dire qu'il va, entre guillemets, orchestrer les circonstances. Nous sommes encore dans le deuxième livre des Rois, avec le prophète Élisée. Les faits sont rapportés au chapitre 6 et 7. Les troupes syriennes ont assiégé la ville de Samarie et ont provoqué une famine telle que deux femmes en sont venues à manger un enfant. Le roi de Samarie, interpellé sur cette tragédie, a rendu le prophète responsable. Souvent, c'est un réflexe humain. On rend Dieu responsable. Contre toute espérance, Élisée affirmera ceci. Dans 24 heures, il y aura abondance. Un officier du roi, incrédule, déclarera. Même si le Seigneur envoyait du grain en perçant des trous dans la voûte du ciel, ce que tu viens de dire pourrait-il se réaliser ? Eh bien, répondit Élisée, tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. Et le Seigneur va utiliser quatre lépreux qui étaient exclus de la ville et qui ont fait choix d'aller dans le camp des Syriens. Il était vide, abandonné précipitamment. Et il y avait là de la nourriture en abondance. Quand la bonne nouvelle sera communiquée à la foule affamée, il y aura une véritable ruée. Ne dit-on pas « ventre affamé n'a pas d'oreille » L'officier du roi, celui qui affirmait son incrédulité, n'a pas pu réguler le flot humain. Il a été piétiné par la foule et il est mort. C'est ce que le prophète Élisée avait annoncé. « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'y goûteras pas. » Ici, le Seigneur n'a pas fait pleuvoir du blé ou d'écailles, mais il a simplement apeuré les Syriens qui ont fui en abandonnant leur ravitaillement. Oui, Dieu est maître du temps et des circonstances. Que ce soit surnaturellement ou providentiellement, bien-aimé, il peut et veut aujourd'hui venir à ton secours. Appelle-le en lui disant ton espérance. Aujourd'hui, c'est encore le temps des miracles. Maintenant pour nous, le temps est venu de faire une pause musicale.
Patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir, un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant, loué sois-tu.
Pour nous relire au temps présent et attester, tel un témoin parmi des millions d'autres sur notre planète, que le temps des miracles n'est pas passé, je vous fais part de la bonté dont le Seigneur a usé envers moi. Lundi 26 septembre 2005, dans un village du Haut-Rhin, au moment de débuter une compétition de tennis de table, je m'écroule devant la table. Infarctus. Pendant plusieurs mois, je venais de mener une existence chaotique suite au décès de mon épouse le 19 août 2004. J'avais vendu le chalet où nous résidions près de Mulhouse et acheté un appartement à Perpignan. Poursuivant mon activité professionnelle en Alsace, je me nourrissais d'expédients et dormais, pendant un temps, sur un matelas pneumatique au bureau. Mi-septembre, ayant accumulé une grande fatigue et une lassitude profonde, j'ai formulé cette prière. « Seigneur, ramène-moi chez moi. » L'arrêt cardiaque va durer 25 minutes. Je dis bien 25 minutes. La manifestation de la providence de Dieu sera évidente, car l'infarctus aurait pu se produire sur la route alors que j'étais seul au volant ou dans un autre lieu. Mais parmi les pongistes présents se trouvaient deux secouristes. L'un pratiquera un massage cardiaque énergique, fracturant deux côtes et le sternum. Comme j'aime à le dire avec humour, je lui ai bien pardonné le fait d'avoir cassé quelques-uns de mes os. L'autre secouriste pratiquera le bouche-à-bouche. De plus, les secours seront très rapidement sur les lieux. Je serai réanimé après le cinquième choc électrique. L'un des secouristes fera cette réflexion. En 30 ans de service, je n'ai jamais vu une telle efficacité dans la chaîne des secours. Oui, c'est la providence de Dieu. L'émotion aurait pu en rester là si je n'avais pas, au moment de m'écrouler, vomi le repas du soir en l'inhalant dans les poumons. Cela va provoquer une pneumopathie sévère nécessitant une assistance respiratoire et il y aura 19 jours de coma. Le pronostic vital est plus que pessimiste. Du dire même d'un spécialiste, c'est comme si on m'avait rincé les poumons avec de l'acide chlorhydrique. En clair, c'est mortel. À un beau-frère, scientifique de haut rang et bien introduit dans le milieu médical, il lui sera dit confidentiellement « Prépare-toi à un enterrement ». Voilà pourquoi, depuis, il m'a surnommé « le miraculé ». Dans cette phase, le miracle de Dieu qui répond à la prière sera évident. Car tout naturellement, pour la grande famille des croyants, dès la nouvelle connue de mon admission au CHU de Mulhouse, au service de réanimation, l'intercession à mon sujet se met en place dans diverses villes de France et même à l'étranger, Laos, Cambodge, Australie. Une de mes filles était missionnaire en Asie du Sud-Est, ayant sollicité l'intercession de ses amis étrangers. Un détail à souligner, l'infection a commencé à régresser et la forte fièvre a baissé au matin qui a suivi un temps spécial de prière organisé un lundi soir, précisément à Perpignan, ville de laquelle je suis originaire. Tant qu'il a été, entre guillemets, comme la goutte qui fait déborder le vase de la bonté divine répondant aux prières de ses enfants. Au CHU de Mulhouse, le professeur responsable du service de réanimation, puis le médecin responsable du service de pneumologie, ainsi que le cardiologue, diront, chacun à leur manière, que le fait que je sois vivant avec toutes mes facultés est un vrai miracle. Je souhaite donc, pour répondre à la grâce qui m'a été faite, de mériter le surnom de Barnabas, comme un certain Joseph mentionné dans le livre des Actes des Apôtres, car Barnabas signifie « fils d'exhortation », en français courant, « celui qui encourage ». Bien-aimé, l'apôtre Paul nous rappelle que Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il l'a livré à la mort ignominieuse de la croix à cause du grand amour par lequel il nous a aimés. Et l'apôtre de poser la question, comment Dieu, qui a fait un tel acte, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec Jésus? Bien-aimé, ce jour est pour toi le moment favorable pour faire appel au Seigneur. Ne veux-tu pas prier le Seigneur, lui demander d'intervenir dans ta vie? C'est le moment d'oser espérer en Dieu, d'oser le mettre à l'épreuve. L'Évangile nous rapporte cette parole étonnante de Jésus. Je cite Matthieu chapitre 11, verset 12. « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Cela signifie que Dieu répond positivement à la hardiesse de la foi. Les évangiles rapportent que ceux qui ont osé importuner Jésus, et ils sont nombreux, ont tous obtenu ce qu'ils étaient venus chercher, simplement à cause de leur foi, parce qu'ils ont cru que rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, l'aveugle Bartimée, lorsqu'il a appris que Jésus passait près de lui, a demandé à être secouru, et en réponse à ceux qui lui demandaient de se taire, il a crié plus fort. Nous savons la suite donnée par Jésus. Bien-aimé, le Seigneur passe ce jour sur ton chemin de souffrance. Vas-tu garder le silence et le laisser poursuivre sa route et ainsi manquer l'occasion qu'il te donne de l'appeler à l'aide? Comme Bartimée, élève la voix, insiste, le Seigneur répond toujours. Et à l'occasion, fais-nous connaître la grâce que le Seigneur t'a faite. Amen.